Tout a débuté par une conversation. Nous sommes en mai 2017 et je viens d'atterrir à New York. J'ai exactement un mois pour profiter, prendre des bonnes ondes et surtout souffler et m'oxygéner. Jour 3. Après deux jours extraordinaires, il pleut. Je décide de rester au chaud, mais je ne vais pas poster une photo de moi sous ma couette avec une tasse de café, pas assez vendeur. Je décide alors de regarder mes photos prises les deux premiers jours et d'en publier une. Quelques minutes plus tard, je reçois un commentaire. Il pleut aujourd'hui. Mon invité vient de faire éruption. Je fouille et je découvre alors que nous avons de nombreuses amies en commun, que je connais finalement très bien son travail, que je vois régulièrement passer sur les réseaux sociaux. Tout est parti d'une conversation, encore une, et aujourd'hui, nous allons la poursuivre. Après le poids des mots, nous allons parler du choc des photos, de cette émotion animale qui nous prend devant une belle photo, inexplicable et qui nourrit tant les conversations. Je m'appelle Romain Saillet et j'ai l'honneur de faire cette conversation avec Géraldine Arechtéanu. Comment tu vas, Géraldine ?
Ouais, ça va plutôt bien.
Dis-moi, j'ai une première question pour toi parce que je voulais pas te poser la question de est-ce que tu peux te présenter, ou voilà, qui était un peu classique. Comme tu es photographe, j'adorerais que tu nous racontes une photo que tu as prise et qui te définit le mieux finalement.
Il y a une photo qui me vient à l'esprit. Par contre, est-ce qu'elle me définit au mieux, je ne sais pas, mais c'est celle qui, quand on me demande, il y a une personne qui m'avait demandé une fois, envoie-moi une photo, s'il y a une photo que tu dois m'envoyer, envoie-moi une photo, et j'ai envoyé celle-ci. C'est une photo que j'ai faite en novembre 1999, dans les mines d'or en Roumanie. Et c'est une photo d'un mineur qui enlève son casque après cette matinée de labeur. Et elle est en mouvement et on ne voit pas très bien son visage, mais pour moi, on sent exactement ce que moi j'ai ressenti quand je l'ai vue. Et je trouve que cette photo, elle me correspond parce qu'il y a de l'humain, il y a du mouvement. Et on peut imaginer des choses sans que ça soit très descriptif, en fait. Donc, je pense que c'est une photo qui peut me ressembler. C'était en argentique et c'était il y a bien longtemps.
Et puis, c'est peut-être aussi le fait que quand tu fais des photos, tu te ramènes avec une armada de matériel autour de toi. Et quand tu finis ta journée, tu déposes tout. Et c'est un peu le signe de fin de journée quand tu poses ton appareil. Est-ce qu'il y a un peu de ça là-dedans ?
Non. Non, parce qu'en fait, je pose jamais mon appareil. Ouais, j'ai jamais l'impression que je pose tout. Et maintenant, j'essaye d'être de moins en moins chargée, même si je le suis. Parce que par exemple, hier, j'étais avec mon trépied, mon sac et tout. Et il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh là, t'es bien chargée ». Mais avant, j'étais encore plus chargée. Donc, j'ai moins l'impression de déposer les armes comme ça le soir en revenant. Donc non, mais par contre j'avais l'impression en photographiant cet homme que lui il allait se reposer, quoi. Voilà.
Pourquoi est-ce que tu quittes jamais ton appareil photo? C'est la peur de rater une photo, c'est-à-dire d'avoir un moment devant toi que t'as pas photographié, ou est-ce que c'est juste parce que t'adores faire des photos et que chaque moment compte?
En fait, j'ai l'impression que si je ne fais pas des photos, je ne vis pas le moment. Et pour moi, c'est ce qu'on me le reproche. Hein, de dire, mais c'est bon, arrête de faire des photos, soyons ensemble, soyons... que ce soit mon amoureux, mes enfants, mon ex-amoureux, à cause de la photo peut-être. Et en fait, ouais, j'ai l'impression de, si je ne fais pas des photos, je ne vis pas le moment où je ne suis pas là, quoi.
On va essayer de refaire un peu ton parcours pour comprendre qui tu es. Nous, on s'est rencontrés du coup à New York, c'est toujours très classe de dire ça.
Ouais, j'adore.
On s'est rencontrés en fait parce que tu as répondu à une de mes photos, comme je raconte dans l'introduction, où tu as dit non, il ne pleut pas aujourd'hui, qu'est-ce que c'est
mensonge.
Que ta photo ? Mensonge, manipulation, fake news. C'était le début des fake news ici. Comment tu étais quand tu étais petite ? Est-ce que tu avais des obsessions ? Est-ce que tu avais déjà des obsessions photographiques ?
Donc, en fait, moi, je vivais en Roumanie. Moi, je suis moitié roumaine, donc je suis née en Roumanie et j'y suis partie à 18 ans. Et avant la Révolution, donc avant 1989, décembre, Donc c'était la dictature, il n'y avait pas d'image. Les images n'existaient pas, il y avait juste un seul journal où tu voyais une photo de Ceausescu dans ses champs de blé ou dans les usines, mais sinon l'image n'existait pas, il n'y avait pas de pub, il n'y avait pas... Donc quand tu voyais des photos, c'était quand tu allais faire ta photo chez le photographe pour... ou bien photo de famille, mais c'était bien rare, ou photo d'identité, voilà. Ma mère étant française, je pouvais partir, on pouvait sortir du territoire une fois par an. Et des fois, mes copains ou les gens que je rencontrais me disaient « Ah, tu viens de Roumanie, mais c'est comment là-bas ?» et tout. Donc, moi, je racontais, mais voilà, tu racontes, mais tu ne sais pas si tu racontes bien, tu ne sais pas si les gens ils se rendent compte de ce que c'est, quoi. Et après la Révolution, il y a eu la possibilité Enfin, les gens ont eu la possibilité d'exposer, mais de tout. Il y avait des expositions partout, en fait. Expos, peinture, sculpture, photos, enfin... Et donc, moi, j'avais 13 ans à l'époque, 13 ans et demi. Et on pouvait, avec des copains, même, on nous disait, il y a une expo à la montagne, enfin, 3 heures de train. On prenait le train à 13 ans et demi, on prenait le train avec les potes et puis on allait voir l'expo.
C'était la soif de voir. Ah ouais,
on voulait
choses,
voir
quoi.
Tout, quoi. Okay. Tout. C'était. Un jour, un copain, il me dit, bah tiens, il y a une expo à la fac d'archi, va voir. Je ne savais pas ce que j'allais voir. J'y suis allée toute seule. Et là, je tombe nez à nez avec donc une expo organisée par WordPress. Et je vois des photos de reportages, mais des photos de mon pays. Donc des photos de vie que j'avais vue, que j'avais vécue. Et pour moi, ça a été extraordinaire, en fait, de se rendre compte qu'on... On peut raconter des choses par une image. Et comme moi, j'étais très mauvaise avec les mots, je me suis dit, purée, c'est ça, quoi. Donc, je suis rentrée à la maison. J'ai dit à mes parents, ouais, ça y est, je sais ce que je veux faire. Je veux être photographe, je veux un appareil photo et tout. Et là, mes parents, ils ont dit, bah, ouais, d'accord, OK. Mais bon, bah, renseigne-toi ce que c'est que la photo d'abord. Puis on verra par la suite. Donc, j'ai cherché cours de photo, mais il y avait rien. J'ai trouvé un cours du soir dans une école populaire d'art. C'était les cours qui, de 20h à 22h. Il y avait que des vieux, ils avaient 20, 40 ans. C'était que des mecs avec un prof assez vulgaire qui t'appelait Petit Nichon et Petite Bite. Donc, c'était un peu étrange. Et pendant un an et demi, j'allais à ces cours où je ne comprenais pas grand-chose. C'était que de la théorie, de l'optique, de la chimie. Vu qu'il n'y avait pas de matos, enfin, il n'y avait pas de matériel. Et le week-end, on sortait entre mecs pour faire des photos. Mais moi, je n'avais pas d'appareil photo. Donc, je faisais des photos avec les appareils des autres, mais je ne voyais jamais mes photos. Enfin...
Ah oui. Ah oui, donc tes débuts photographiques, t'as pas vu les photos que t'as prises.
Voilà. Je faisais des choses, mais je savais pas ce que je faisais, en fait. Et au bout d'un an et demi, mes parents, ils se sont dit, bon, bah, elle a l'air assez motivée, la petite. Et en venant en France, ils m'ont acheté mon premier appareil. C'était un Canon T60 acheté à Auchan, à côté d'Orléans. Et ensuite, donc c'est un appareil que j'ai toujours, hein. Et ensuite, quand mes parents, ils ont fait des travaux à la maison, et ils m'ont construit un labo photo. Et voilà, quoi. Donc, depuis mes 14 ans et demi, 15 ans, je fais des photos et j'ai tiré mes photos. Donc, voilà, quoi.
Tu te souviens de la première photo que tu as prise et que tu as développée ? Parce que, du coup, si tu as pris des photos, mais que tu ne les as pas vues, en tout cas, celle que tu as prise, et puis tout d'un coup, tu l'as vue se révéler. Tu te souviens ?
Je me souviens quand j'avais commencé à monter mon agrandisseur et puis il y avait pas le mode d'emploi comment monter donc c'était un peu et j'avais développé mes fils mais j'avais pas fait attention non plus à la température et tout donc ouais je me souviens de ces premières photos qui n'existaient pas forcément enfin elles étaient pas très très visibles. Donc, c'est des photos qui... dont je me souviens, mais qui n'ont pas l'air d'être des photos, en fait.
Et tu avais des obsessions quand tu étais petite ? Est-ce que tes premières photos, tu avais un sujet photographique que tu voulais tenir ? Est-ce que tu shootais absolument tout parce que tu voulais tout découvrir ?
Ah non, non, moi, quand j'ai décidé d'être photographe à 13 ans, là, à 13 ans et demi, je voulais que ce soit... Je voulais faire de la photographie sociale et noir et blanc. Donc, l'expo que j'avais vue, il y avait beaucoup de photos couleurs, mais dans ma tête, après, quand j'ai commencé à regarder un petit peu les travaux d'autres photographes, c'était social et noir et blanc. Donc, moi, ça, c'était les gens, quoi. Je voulais photographier les gens. La vie, surtout la vie qui nous entoure et la vie qu'on ne voit pas, forcément. Et moi, c'était ça que je voulais faire. Et c'est ce que je fais.
Quand on va sur ton site, on voit qu'il y a finalement beaucoup de photos différentes, parce que tu as soit des portraits, soit tu as des paysages incroyables de tes voyages, soit... Est-ce qu'il y a, il y a une forme de photo ? Alors, tu l'as dit, finalement, c'est des gens. Est-ce que c'est ça ta réponse ? Est-ce qu'encore aujourd'hui, tu restes fasciné, et c'est ton dada, ces photos des gens ? Ou est-ce que tu prends du plaisir aussi quand tu as un paysage incroyable que tu prends en photo? Là, tu étais en Islande, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques mois.
L'année dernière.
C'est ça. Est-ce que ça t'a, de faire ces photos de paysage, ça t'a fasciné tout autant que de prendre en photo des gens?
Ah non, pas du tout. en Islande, ça a été assez étrange. C'était beau et tout, mais il n'y avait pas de gens, quoi. Et ça m'a perturbée. Donc, je me suis concentrée sur les seules personnes que je pouvais voir. C'était des touristes... asiatique. Donc, en fait, dans mes photos, il y a les touristes. En fait, non, les paysages sans gens, sans âme, âme humaine, je l'apprécie en les regardant, mais je fais ma photo parce que, voilà, j'en ai besoin, mais ça m'émeut pas, en fait. Moi, c'est la rencontre, en fait. Finalement, c'est rencontrer les gens.
Ce qui m'impressionne dans ton travail, c'est que faisant un tout petit peu de photos à mon niveau, moi, c'est les photos que j'arrive pas à faire, en fait. C'est les photos de gens quand ils sont dans leur activité, que tu les prends en photo sans poser. Ça, j'aime beaucoup ça. Mais faire poser une personne devant un appareil photo, je suis absolument nul à ça. Est-ce que j'arrive pas à créer le contact ou je sais pas comment ça se passe, ce sera très compliqué. Est-ce que tu as un processus, toi, pour créer ces photos et pour créer justement cette conversation et cette relation avec l'autre, cette mise en confiance presque?
Non, il y a un processus. Non, en fait, moi, pour moi, la photo, c'est la rencontre. Donc, pour moi, un bon portrait, c'est il faut qu'il y ait eu aussi une belle rencontre. Donc, ce qui se passe avant ou pendant la séance photo et avoir la photo finale, c'est aussi important. Donc, je pourrais pas apprécier un portrait si je sais que la personne n'a pas pris plaisir, en fait, à la séance photo. Moi, je suis pas. Moi, je veux vraiment que tout soit plaisir et agréable. Et c'est moi, les choses dans la souffrance, c'est pas possible. Enfin, j'y arrive pas. Pour moi, c'est pas intéressant. Et j'aime bien aussi qu'il y ait des gens qui viennent. De toute façon, toutes les personnes qui viennent se faire photographier ou que je photographie, on me dit, vous savez, j'aime pas du tout être pris en photo. Je déteste ça.
Souvent, effectivement, c'est ce qu'on me dit. Ouais.
Et moi, j'aime bien ces gens-là qui viennent avec, qui n'ont pas envie, qui ont un peu peur, c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident. Moi, quand je vais chez le dentiste, j'ai peur aussi. Donc, et de savoir que t'es regardé, que t'es... Et en fait, j'aime bien savoir qui je prends en photo. Donc, souvent, je demande déjà comment la personne s'appelle. Je demande pourquoi elle est là devant moi. Donc, quand je vais faire des photos dans des entreprises, je lui demande pourquoi elle est sur cette chaise devant moi. Et de savoir aussi ce dont elle rêvait quand elle était jeune, quoi. Et de savoir le parcours. Et puis, en parlant de choses et d'autres, je regarde la personne et c'est en la regardant que j'arrive à mieux la photographier. Donc, puis après, elle commence à être en confiance vu qu'on parle de plein de choses. Enfin, c'est un petit peu exactement ce que tu es en train de faire, quoi. Au départ, je te dis, moi, j'aime pas ça, j'ai du mal à parler.
Exactement.
Et voilà, donc on fait un peu le même métier, quoi.
on est des espèces de révélateurs. Qu'est-ce que tu aimes comme. Parce que quand la personne voit sa photo, est-ce qu'il y a une remarque ou une attention ou des mots qui te touchent plus que d'autres, qui te disent que, ah ok, là j'ai réussi à prendre la photo qui me semblait intéressante?
Quand la personne se découvre sur mes photos, il y a quelque chose qui me touche énormément. C'est quand elle me dit, ah ouais, je pensais pas pouvoir être comme ça, et c'est exactement comme ça que je m'imaginais, mais je pensais pas oser apparaître comme ça. Donc en fait, c'est là où tu te dis que tu arrives à révéler quelqu'un de son... De ce qu'elle a au plus profond d'elle, mais que des fois elle n'ose pas montrer. Donc, ça, je me dis que j'ai un peu gagné, quoi. Mais j'aime bien, ouais, quand. Ouais, j'aime bien que les gens se découvrent dans mes photos. Voilà.
Il y a un projet que tu fais qui est vraiment assez génial, ça s'appelle 24 heures.
Ouais, c'est génial.
Le concept est assez simple finalement, mais il est quand même absolument génial. C'est tu rencontres une personne avec qui tu as envie de passer 24 heures, tu passes ces fameuses 24 heures avec cette personne et tu en profites pour la photographier pendant 24 heures. Et tu en ressors un reportage photographique, peut-être ça le nom le plus simple, mais finalement qui... Alors, j'ai plein de questions. Comment tu sélectionnes ces personnes-là? Déjà, d'où est venu ces fameux 24 heures? Parce que finalement, est-ce qu'une demi-heure, une heure, deux heures te suffisait pas? Qu'est-ce que tu viens chercher dans ce 24 heures? Et qu'est-ce que tu attends de ça?
Donc en fait, le 24 heures, ce projet-là, il est venu après une réflexion où je trouvais que j'étais un peu frustrée parce que je passais pas assez de temps avec les gens que je photographiais. Et des fois, tu as des gens qui te disent rester dîner, rester manger, un café et tout. Et toi, tu peux pas parce que tu as autre chose à faire. Ou toi, tu as envie de rester avec les gens, mais ils ont autre chose à faire que de t'accueillir. Et je me suis dit, mais bon, combien de temps je pourrais rester avec les gens pour que ça me fasse du bien et que... Et c'était assez égoïste, hein. J'avais envie, moi, de prendre plaisir et de plus courir, en fait. Et je me suis dit, tiens, 24 heures, ça pourrait être une durée assez raisonnable. Parce que demander aux gens de rester une semaine chez eux, ça fait quand même un peu long. Et 24 heures, finalement, la première fois, quand j'ai eu l'idée, donc je ne les avais pas encore vécues, je ne m'étais pas forcément rendu compte de cette durée, en fait. Mais rester 24 heures non-stop avec quelqu'un, on reste jamais, on reste très rarement 24 heures avec quelqu'un, sauf quand tu pars en rando ou je ne sais pas. Mais dans la vie de tous les jours, dans un quotidien, on n'est jamais 24 heures avec quelqu'un. Et du coup, accompagner quelqu'un pendant 24 heures, tu rentres vraiment dans son intimité et tu peux montrer vraiment une vie normale, une vie de quotidien, une vie soi-disant banale et qui pour moi, elle est juste extraordinaire. Et ça crée vraiment un lien assez particulier entre moi et mon sujet, quoi.
Et comment tu les sélectionnes alors? Comment? Parce que tu en as fait combien en tout?
Là, je suis à 27.
Comment tu as fait pour cette petite trentaine, dirons-nous?
La sélection se fait d'une façon très, très simple et très humaine. C'est une question de rencontre. Donc, il y a des gens que je rencontre et je me dis, oh là là, trop bien, j'ai envie de rester 24 heures avec. Ou bien, il y a des gens qui me parlent, dans une discussion pas du tout liée à la photo ou quoi que ce soit, mais voilà, dire, ah, j'ai rencontré un tel, et puis, puis la façon dont la personne me parle de cette personne, je me dis, oh, mais j'ai juste trop envie, c'est de passer 24 heures avec. Donc, je contacte la personne, je leur demande, voilà, est-ce que je peux... est-ce que je peux venir 24 heures? Est-ce que je peux dormir chez vous? Et est-ce que...
Oui, t'as refait, en fait, Maxime de Maximi qui fait « J'irai dormir chez vous ».
Ouais, voilà, voilà. Et bah, pour certains, tu te retrouves à dormir dans le même lit que la personne, ou bien dans la chambre d'à côté, ou bien... Enfin, en fait, les 24 heures, je les adapte en fonction de la personne, quoi. Mais je la suis comme une ombre. Mais pour certaines, tu sens que, que tu ne peux pas forcément rentrer dans la chambre à coucher, donc tu n'y vas pas, elle va se coucher, donc tu la laisses. Puis il y a d'autres, tu vas même jusqu'à dans leur lit, quoi. Mmh. Après, les personnes qui, quand elles vont prendre leur douche, elles ferment leur porte, et puis d'autres, elles ne ferment pas. Donc, en fait,
ah oui,
c'est...
Donc t'es vraiment là, partout, à chaque moment, et tu les suis, quoi.
Je suis là, mais je prends ce qu'on me donne.
Okay.
Je fais jamais mes photos sans qu'on sache que je suis là. Mmh. J'ai pas envie... Toi, on me pose la question si j'aime bien être un peu invisible, est-ce que je parle avec les gens que je photographie et tout ça. Moi, je parle beaucoup avec les gens que je photographie. Donc, on est vraiment ensemble. Après, voilà, quand la personne, elle est au travail, je la laisse travailler, puis je ne lui parle pas. Mais sinon, je montre que je suis là, en fait. Je ne veux pas faire... Faites comme si j'étais pas là et puis que j'ai pas envie de voler des images. Donc ça, moi, je vole pas des images. Moi, je prends ce qu'on me donne, et après, quand les personnes elles découvrent leur 24 heures, elles disent ah ouais, ah putain, t'avais vu ça, ah c'est comme ça. Puis aussi les personnes après leur 24 heures, il y a des choses qui changent dans leur vie aussi.
Ah oui.
Donc ça.
T'as un exemple là-dessus qui pourrait être.
Il y a un couple que j'ai suivi, et puis ils se sont rendus compte dans le 24 heures qu'ils fumaient énormément, quoi.
Ah, okay.
Et donc ils se sont dit, mais c'est pas possible, enfin, on est tout le temps avec une clope à la bouche, et c'est vrai qu'ils allumaient une clope avec une autre clope, donc c'était... Et en fait, ça leur a fait un peu mal au cœur de voir, donc ils ont décidé de ralentir. Mm. Ou une autre personne, en voyant, elle dit, mais je suis vraiment fatiguée, il faut que je fasse attention à moi. Et donc, il y a eu toute une réflexion par rapport au fait de voir son propre quotidien, quoi.
Oui, c'est ça qui est un peu fascinant, c'est de se voir dans un quotidien où ce n'est pas du tout la photo posée ou quoi que ce soit, c'est juste moi, comment je fonctionne et comment j'évolue dans mon environnement qu'on ne voit pas forcément.
Voilà, dans la vraie vie, parce que quand je propose, on dit « Ah oui, mais il faudra qu'on organise et tout ». Je dis « Non, non, il ne faut surtout pas, on n'organise pas par rapport aux 24 heures. Mmh. On choisit la date du 24 heures pour que, voilà, que ça soit une date intéressante, mais je ne veux pas que ça soit un événement hyper particulier. Mais je ne veux pas qu'on... si c'est une personne qui fait... Qui va à la piscine et qui peint et qui machin et tout ça, et je veux pas que d'un seul coup toute la journée elle fasse toutes les activités juste pour le 24 heures. Non, c'est vraiment une journée normale.
Comment t'arrives à retrouver de la création? Ça, c'est une question que j'ai beaucoup, parce que quand tu passes tes journées, allez, je caricature, tes journées à prendre des photos, à un moment donné, est-ce que tu sens que t'as plus rien à donner ou plus rien à dire, ou comment tu te ressources? Comment tu trouves de l'énergie pour continuellement... Parce que l'être humain est certes un sujet à multifacettes et incroyable, mais comment tu fais ça? Comment tu fais pour retrouver de l'énergie? Parce que ça doit être un peu énergivore, ce type d'activité.
En fait, je suis quelqu'un qui s'ennuie assez vite. Donc, il y a plein de choses que je veux pas faire plusieurs fois. J'ai rarement des mêmes clients. Donc je pense que le fait de pas avoir envie de faire plusieurs fois la même chose, ça permet de... d'imaginer d'autres choses. Après, là, par exemple, là, le sujet des 24 heures, bah, c'est toujours 24 heures, mais c'est toujours avec des gens complètement différents, dans des lieux différents. C'est, donc, il y a toujours une... Je m'adapte. Et j'aime bien ça. J'aime bien aussi le fait de ne pas savoir ce que je vais faire.
OK.
Je prépare rarement dans ma tête les images. Donc, par exemple, là, vendredi dernier, j'ai fait des photos pour Yellow Innovation. C'est des photos de mode, chose que je fais presque jamais, dans un lieu extraordinaire à Paris, l'espace Neumeyer. Donc, mais j'avais pas vu les vêtements avant. J'avais pas vu le lieu avant, à part sur photo. Et j'avais pas forcément de brief. Et la veille, je dis à un ami, je dis, ah ben, je vais faire ça demain. Et il me dit, tu vas faire quoi? Je lui dis, bah, je sais pas, je verrai. Il me dit, mais ça te stresse pas?
Ouais, c'est la question. Moi,
ça me stresserait de pas savoir. Et là, je dis, bah, non. Et après, je me dis, mince. Et du coup, je me suis stressée de pas stresser.
Ah oui. Alors, comment t'as fait quand t'es arrivée sur le plateau? T'as eu des idées qui sont arrivées comme ça, en lien avec le lieu, les vêtements et tout ça? Ça t'a parlé ou...
Ouais, au départ, t'arrives dans le lieu, tu vois les mannequins arriver, tu vois les fringues et tout. Et puis là, on te dit, ah, finalement, en fait, on a que 3 heures. Ah, et là, tu fais, ah. Donc là, j'ai un peu paniqué sur le moment. Et petit à petit, bah, tu regardes mieux les vêtements, tu regardes mieux les personnes, tu parles avec les personnes, tu regardes l'espace et tout ça. Et là, les idées arrivent, en fait. Mais c'est vrai que quand... Bon, là, c'est particulier parce que c'est des mannequins. Donc, c'est pas comme si tu photographiais. Les mannequins, ils sont là pour la photo. Ils savent poser. Donc, c'est autre chose. Mais en général, en fait... Là où je me suis décidée d'arrêter de réfléchir en amont à ce que j'allais faire, c'était en fait au tout début pour gagner des sous. Et ce qui me plaisait aussi, je faisais des photos de famille, des photos de femmes enceintes, des photos de couples et tout ça. Et à cette époque-là, c'était aussi une période où j'avais du mal à photographier des gens habillés. Donc en fait, pour moi... Moi, je photographiais plus facilement des nus, des torses nus. Donc, les gens, ils contactaient pour faire des photos de famille. Et au moment où on discutait un petit peu, et après, je dis, bon, bah, déshabillez-vous. Bon, bah, on vient pour les photos de famille. Et après, je leur expliquais, et ils disaient, ah ouais, bon. Donc, voilà. Et un jour, il y a une dame qui m'appelle et me dit, voilà, je suis enceinte, je voudrais avoir des photos de moi enceinte et je viendrai aussi avec ma petite fille qui a 2 ans et avec mon amoureux. Et on sera 3, quoi. Enfin, 3 et demi. Et là, je lui dis, pas parfait. Et là, j'ai réfléchi, je me dis, oh là là, mais c'est la première fois que j'ai une femme enceinte avec un bébé, enfin, avec aussi un enfant. Et là, j'étais super contente parce que c'était la première fois et je me suis dit, ah, je vais demander au bébé de prendre le ventre dans les bras. Enfin, je me suis imaginé plein de choses, en fait. Et la famille arrive, on discute un petit peu, mais pas trop. Et là, je dis, bah voilà, déshabillez-vous. Ah bon, hein. Ils acceptent. Bah, voilà. Et là, je demande à la petite fille, je dis, ah, tu veux pas mettre les mains sur le ventre de maman? Et là, puis comme si tu parlais au bébé, ou je sais pas, enfin, je sais pas ce que je leur racontais. Et là, la gamine, elle a mis les mains sur sa mère, et puis elle a commencé à crier et tout. Ça, ah, et ça, enfin, voilà, ça, c'était pas possible, quoi. Je dis, bon. Et là, la mère, elle me dit, ah oui, on vous a pas dit, mais en fait... ma petite fille, elle a du mal à me toucher. On n'a pas un rapport très tactile entre nous, mais elle est beaucoup plus à l'aise avec son père. Enfin, voilà quoi, c'était le relais. Et là, je me suis dit, mais de quel droit? Moi, ces gens-là, enfin, les personnes que je photographiais ces personnes, je photographiais leur vie. Ce n'était pas l'image que je pouvais m'en faire. Du coup, je me suis dit, mais de quel droit je me suis permise d'imaginer leur vie avant de les avoir rencontrés? Et j'aurais dû parler plus longuement avec, les regarder un peu plus longuement pendant nos discussions et de voir un peu la relation que chacun avait avec chacun. Et depuis, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête d'imaginer des choses sur des gens que j'allais photographier, surtout que c'est les gens que je photographie, donc c'est pas à moi d'imaginer quoi que ce soit par rapport à des gens. Donc la photo, maintenant, les photos se font au moment de la rencontre.
En fait, ce que je trouve intéressant dans le travail de photographie, c'est que finalement, tout se passe avant la photo. Et en fait, je trouve que plus une photo raconte une histoire, plus finalement, elle doit normalement révéler ce qui s'est passé en amont. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé avec des photographes animaliers quand je bossais avec Luc Jacquet, donc on a emmené des photographes en Antarctique sur la banquise et sous la banquise. Et effectivement, je me disais, mais en fait, comment ils vont s'organiser ? Il faut qu'ils prennent des photos très vite quand ils arrivent. Et Luc Jacquet m'a dit, ah non, pas du tout. Ils vont commencer à se balader, à voir ce qui se passe pendant des jours sans appareil photo. Et puis, à un moment donné, ils vont sentir qu'il y a un sujet à un endroit et ils vont y aller avec leur appareil. Et c'est vrai que souvent, on a ce truc d'avoir son appareil constamment dans les mains en disant, on va faire des photos. Et tu as fait raison quand tu dis, en fait, on va préparer avec le sujet, on va essayer de voir ensemble comment on va composer cette photo. Il y a une question que j'ai envie de te poser, c'est dans toutes les photos que tu as faites, comment tu estimes qu'une photo est réussie ? À partir de quand tu décides d'appuyer sur le bouton du déclencheur ? Est-ce que tu as quelque chose, des éléments, alors pardon, je reviens sur ce mot d'obsession, parce que moi, il m'obsède ce mot en ce moment. Est-ce que tu as un élément qui te dit, là, c'est bien ? Ou là, a priori, je ne dois pas être très loin de quelque chose qui est bien ? Tu le sais, ça, ou pas ?
En fait, moi, je fais beaucoup de photos. Enfin, et par exemple, quand je fais un portrait de quelqu'un, je le photographie. Enfin, pour se mettre à l'aise, rien qu'avec l'idée que la personne me voit avec un appareil photo. Donc, je parle avec elle, je la prends en photo. Il y a aussi, si je travaille avec les flashs comme ça, la personne elle s'habitue aussi aux flashs. Donc moi, je fais des photos avant la photo, en fait, presque. Mmh. Mais jusqu'à ce que j'ai ma photo.
Donc parce moi, que j'attends tu l'as pas. En tête avant.
Non, pas du tout. C'est vraiment
c'est quelques secondes avant, hein, vraiment le.
Non, en fait, t'as jamais la photo, elle vient à toi, quoi.
Ok.
C'est le moment de grâce. Je sais pas comment dire. Donc, t'attends pas forcément quelque chose. On n'est pas trop en attente. Il n'y a pas de. Donc, quand je fais ma photo, je fais le portrait et tout ça, et puis d'un seul coup, la photo arrive, quoi. Et là, tu sais que tu as ton portrait, donc tu peux dire, c'est bon, on a fait le boulot, quoi. Mmh. Mais tu sais pas exactement ce que tu vas avoir. C'est ça qui est génial. Tu as des petites idées et tout, parce que tu places ta lumière. Mais moi, ma lumière, je la bouge tout le temps, en fait. Ou bien quand c'est en lumière naturelle, tu positionnes la personne en fonction de la lumière. Mais je laisse beaucoup aux gens de se mouvoir comme ils en ont envie, en fait. Mmh. Donc, des fois, ça fait un peu peut-être un peu de photo de reportage, même quand c'est un portrait. Mais je la place quand même parce que je peux avoir mes petites idées en fonction du lieu où on est. Mais la photo, ouais, c'est vraiment l'instant de rencontre, quoi.
Justement, ces rencontres. Il y a un deuxième projet que j'aimerais qu'on aborde là ensemble. C'est un projet sur les femmes. Sur les femmes et leur diversité et leur... Le discours, effectivement, en ce moment, qui est de dire attention à ce paternalisme ambiant, il faut tout pour faire un monde et n'oubliez pas les femmes, surtout. Et je trouve ça extrêmement intéressant, tous les projets qui sont en train de se développer autour de cette question-là, comment on fait société avec tout le monde, dont les femmes, qui est un sujet important. Comment, toi, tu as décidé d'aborder ce sujet, puisque tu as fait des photos qui ont été publiées et tu vas faire une expo dans quelques jours à New York, tu vas retourner là-bas.
Yes.
Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Et puis voilà, comment ça s'est déroulé ? Comment tu t'es retrouvée là-dedans ? Et puis voilà, quelle a été l'origine de ce projet ?
L'origine du projet, c'est il y a Patricia Louiseur-Brosset qui m'a contactée. Elle m'a dit, je veux faire une expo photo et... Et la vente des photos ira pour une asso qui lutte contre les violences faites aux femmes. Est-ce que tu as des photos à exposer ? Je lui dis, bah oui, mais c'est quoi le sujet ? Elle me dit, bah le sujet, ce serait la puissance des femmes. Donc, est-ce que tu as déjà des photos de fête ? Là, en me disant, quand même, c'est un beau sujet et des femmes puissantes, j'en connais. Pas que personnellement, mais... Et je me suis fait une petite liste. J'étais dans un TGV pour aller vers un reportage et dans le TGV, tu as le temps de te poser un petit peu. J'ai fait une petite liste de femmes. Et la première à laquelle j'avais pensé, c'était Andréa Bescon, qui est une comédienne, danseuse et auteure extraordinaire, qui a fait le spectacle Les Chatouilles, que j'avais vu un an et demi auparavant. Et pour moi, ça a été un des spectacles qui m'a le plus bouleversée, voire celui qui m'a le plus bouleversée. Et ensuite, après le spectacle, j'ai commencé à la suivre sur Facebook et j'ai vu sa mobilisation et son humanité. Et je me suis dit, mais cette femme, voilà, elle c'est une femme puissante, quoi. Et après, j'ai pensé à une autre femme, tout de suite après, Véronique, une femme qui m'avait contactée, pareil, deux ans auparavant, un soir, en me disant, voilà... ce matin, j'ai su qu'il fallait que je vous appelle. Je me suis réveillée, j'ai su qu'il fallait que je vous appelle. J'ai besoin de vous. Je dis, bah, bon. Elle me dit, bah, j'ai un cancer invasif du sein et je voudrais que vous me suiviez pendant cette épreuve, pendant un an. Je dis, ah, ben, pourquoi ? Enfin... Et en fait, elle m'a expliqué le pourquoi. Elle connaissait un peu mon travail et elle savait pas du tout qu'est-ce qui allait se passer au bout de cette année. Et elle voulait qu'il y ait un souvenir de cette année qui soit vu d'une façon pas pathétique, pas triste. Et donc voilà, donc c'est une personne que j'ai suivie pendant un an. J'étais là pendant que... Sa sœur lui a rasé la tête avant sa chimio. Je l'ai accompagnée sur une chimio. Je l'ai accompagnée. Elle est venue plusieurs fois au studio photo où on a fait des séances photo. Et en fait, j'ai vu comment cette femme s'est battue contre cette maladie. Je l'ai vue au plus bas où même moi, j'ai pris peur. Et pour moi, voilà, elle faisait partie aussi de ces femmes puissantes qu'il faut montrer, en fait. Donc, je m'étais fait comme ça une petite liste de personnes. Il y a eu 8 personnes. On a fait cette première exposition. On s'est dit qu'il nous faudrait un titre de l'expo. Et Patricia a trouvé... c'est en expliquant le projet à quelqu'un. Elle me dit, mais ouais, quoi. Don't fuck with me, merde. Et là, elle fait, ah. Et donc, notre projet s'appelle Don't fuck with me. Et c'est une expo... des portraits de femmes, des portraits photos et textes, donc Patricia a écrit les textes, de femmes qu'on rencontre au gré de nos périples et qui pour nous, nous semblent des femmes fortes, puissantes. Et c'est une exposition pour les femmes, pour les hommes, pour les petites filles, pour les petits garçons. Et c'est une expo humaine. Humaniste, je ne sais pas comment dire. Et donc, on a exposé plusieurs fois sur Paris. La première fois qu'on a fait l'expo avec juste les 8 portraits, il y a eu une belle émotion. Il y a eu même des personnes qui ont eu les larmes aux yeux en voyant les photos et en lisant les textes. Et donc, on s'est dit, bah, il faut qu'on continue, quoi. Donc on continue. Et on a fait également pour la date du 8 mars, on a fait une intervention auprès de 3 classes de 3e, donc des jeunes qui ont 14 ans, et où on a projeté les photos, on a lu 5 textes parmi nos femmes. On a choisi le texte d'Andréa Bescon qui parle de la pédophilie. On a choisi le texte de l'histoire de Ina Moja qui parle de l'excision. de Alexia qui parle de d'anorexie. Donc on a choisi des sujets qui soient sensibles aux jeunes, qui n'ont pas forcément la l'occasion de parler de ces sujets non plus entre eux et avec des professeurs ou avec des adultes. Et nos trois interventions de 1 heure chacune ont été hyper, hyper fortes et hyper intenses. Et les gamins, on se dit bah, « merci ». Donc maintenant, ils nous suivent sur Insta. donc on sent que c'est un sujet, le projet, il est utile. Parce que pour moi, mon travail, il doit être utile.
C'est la question que j'allais te poser quand du coup, t'es arrivé là tout à l'heure. Tu m'as dit « je me sens extrêmement aligné en ce moment ». Ce qui est hyper agréable à entendre, en fait, parce que c'est quelque chose de fort. Et est-ce que, c'est un peu ma question, est-ce que cette utilité-là, tu l'as toujours voulu en vrai photographie ? Est-ce que le fait de prendre en photo des gens, finalement la finalité c'était, alors on a parlé de révélateur, mais est-ce que c'est pas aussi d'avoir un rôle un peu politique, mais politique citoyenne, c'est-à-dire de mettre en relief, en valeur, des gens qui peuvent être des rôles modèles et qui peuvent être accompagnés d'un discours plus politique et qui permettent de faire changer un peu les choses ?
Complètement. Enfin, je fais des photos, je photographie, mais j'ai envie que mes photos soient utiles et qu'elles aident une cause pas forcément une cause, mais oui, j'ai envie d'être utile en fait.
C'est pas des photos gratuites.
Non, j'ai pas le temps pour ça. Non, mais il faut. Enfin, je me sens citoyenne. Je me sens. Je fais partie d'une ville, d'un pays, du monde. Enfin, il faut que je sois acteur en fait, actrice. Donc. J'ai envie d'être utile et de savoir que mon travail il sert à quelque chose et tout simplement en fait.
Il y a un troisième projet sur lequel tu travailles qui est finalement extrêmement lié dans l'approche. Cette fois, c'est comment est-ce qu'on met en relief des personnalités ou des personnes de cette société qui ne se considèrent pas assez entendues. Donc il y a les femmes aujourd'hui, à juste titre. Et puis aussi, il y a les migrants, les jeunes migrants. Des personnes qui effectivement ont tout quitté à cause de plein de raisons, qui se retrouvent ici et qui se retrouvent souvent à la rue. Toi, il y a un sujet plus particulièrement qui t'a intéressé, c'est les jeunes, donc les personnes mineures qui...
Les enfants
qui ont immigré en France et qui n'ont pas de toit. Pareil, j'ai envie de te poser un peu la même question, parce que tu le racontes très bien, c'est comment ça a débuté et puis pourquoi t'avais envie de t'impliquer dans cette question-là. Est-ce que ça faisait réagir des choses par rapport à toi, qui tu es, ton identité ?
Donc moi je suis moitié roumaine, moitié française. J'ai toujours pu sortir de Roumanie, mais mes copains, ils ne pouvaient pas sortir de Roumanie à l'époque. Mais je trouvais ça un peu bizarre. Enfin, j'étais pareil qu'eux. Et en fait, j'ai jamais accepté et j'accepte toujours pas que certaines personnes puissent sortir d'un pays pour aller dans un autre pays et d'autres pas. Qu'on félicite des Français d'aller faire leurs études dans tel ou tel pays parce que c'est bien. Et puis, au contraire, c'est vachement bien. C'est important d'aller voyager, d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Donc, on félicite les Français de partir, mais on n'accepte pas que d'autres personnes viennent faire leurs études en France. En fait, c'est ça, je comprends pas ces histoires de frontières et qu'on a l'impression que chacun doit rester dans son propre pays et que... Et il y a quelques années, j'ai fait un travail sur... pour le CERCIL, c'est le musée aussi des enfants du Veldiv, où j'ai photographié pendant des années des enfants cachés de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont maintenant 80-85 ans. Donc, Donc, ces personnes qui ont cet âge, que j'ai photographié, que j'ai rencontré, ben, elles m'ont raconté un petit peu comment elles ont été cachées, quoi. D'aller d'une famille, d'une famille à une autre, aller dans des écoles catholiques, mais il fallait surtout pas dire qui tu étais. Enfin, et là, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe en ce moment par rapport à ces enfants qu'on appelle des mineurs isolés migrants. On est en train de cacher des enfants. C'est des enfants qui ont quitté leur pays, ou bien tout seuls, ou bien avec des copains, ou bien avec quelqu'un de leur famille, mais qui se retrouvent maintenant, à cause du parcours, elles ont été séparées de leur accompagnant. Donc, ils se retrouvent en France, dans la rue, sans identité, parce qu'ils sont mineurs, mais l'État français ne veut pas reconnaître qu'ils sont mineurs. Donc, c'est des enfants qui n'existent pas, en fait, par rapport à l'État français. Et ils ne sont pas majeurs parce qu'ils sont mineurs, mais on ne veut pas les reconnaître comme mineurs, donc ils n'existent pas. Et donc, c'est des enfants qui sont à la rue. Donc, heureusement qu'il y a des associations qui se sont dit, mais on ne peut pas laisser ces enfants à la rue. Donc, ils cherchent des hébergeurs solidaires. Donc, c'est des hébergeurs comme toi et moi, comme tout le monde pourrait l'être. Et donc, c'est des gens qui ouvrent leurs portes pour ces enfants. Malheureusement, il n'y a pas assez de personnes qui ouvrent leurs portes. Donc, il y a encore beaucoup d'enfants qui sont à la rue. Mais ces enfants, ils ont 13, 14, 15, 16, 17. Et donc, c'est un sujet que j'ai commencé au mois de décembre en discutant avec une personne que j'avais prise en photo pour mon projet Don't Fuck With Me. C'est une femme extraordinaire qui s'appelle Manuela, qui, elle, héberge depuis maintenant plus de 2 ans, qui a monté l'association Les Midis du Mi, qui font des distributions de déjeuner vers République et qui trouve des hébergeurs. Et c'est en buvant un verre avec elle et qui m'a raconté un petit peu que c'était de plus en plus compliqué de trouver des logements, que c'est de plus en plus compliqué à ce que ces enfants soient reconnus en tant que mineurs, donc pris en charge. Et là, je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, et comme moi, je ne sais pas faire autre chose que des photos. J'ai eu l'idée de faire des portraits d'enfants avec les hébergeurs. Et on a commencé à faire ces photos. On s'est dit, on commence à faire les photos, on verra bien ce qu'on va en faire. Et au départ, elle m'a dit, mais par contre, il ne faut pas qu'on voit leur visage. Donc moi, je me suis dit, oh là là, faire des portraits, on ne voit pas le visage. Pour moi, un portrait, c'est le regard. Et donc, je me suis dit, oh, je vais pas, enfin, ça va être compliqué. Enfin, je sais pas. Et donc, il ne fallait pas qu'on voit leur visage parce que, déjà, ils sont mineurs, donc il n'y a pas de responsable légal qui peut autoriser pour la diffusion de leur image. Et aussi, ça peut être très compliqué pour les démarches administratives. Et donc, il faut pas qu'on les reconnaisse. Donc, la première, on a fait la première photo, c'était à Paris, d'un jeune qui était hébergé pour quelques jours dans une famille. Et là, on discute, on a pas mal discuté. On discute en général, on discute pendant une heure et demie. Et c'est là où je lui dis, bon, tu vas cacher ton visage avec tes mains. Parce que pour moi, les mains, c'est... Moi, j'adore les mains. Donc, pour moi, les mains, ça peut être aussi un portrait de quelqu'un. Et donc, je lui ai demandé de cacher son visage. Et puis, tout le reste de la famille, ils avaient le visage découvert. Et en faisant la photo, c'était hyper violent parce que je demandais à quelqu'un de cacher son visage. Mmh. C'était Donc, je demandais aux autres personnes, regardez-moi, mais ils ne pouvaient pas me regarder. Donc c'est... Puis moi, c'est quelque chose que je dis souvent quand je fais un portrait, regardez-moi, regardez-moi. Et là, de sentir l'enfant derrière ses mains. Donc la photo, en général, quand je fais ces photos, ça dure 5 minutes, c'est très rapide. Et en regardant après la photo, je me suis dit qu'il y avait tout son sens parce que l'enfant est caché. L'enfant est dans un univers réel et ça explique bien un petit peu la situation actuelle de ces enfants, quoi.
C'est-à-dire que nous on les voit pas, mais eux non plus ne nous voient pas. Enfin, une espèce de jeu de regard en fait qui fonctionne pas, quoi.
Voilà. Il y a mais les personnes qui sont autour et qui accueillent, bah elles sont. Enfin, elles se sentent bien, en fait. Donc, c'est pas une photo plombante, mais en même temps, elle est plombante aussi parce que, à cause de la situation.
Il y a une tension qui s'est créée.
Voilà. Mais on veut aussi montrer qu'il y a des relations fortes qui se créent aussi entre cette rencontre quand tu héberges quelqu'un, quoi.
J'adore la photo de votre affiche. Tu me l'as montrée là juste avant qu'on débute. En fait, c'est pas l'enfant qui cache, je crois, hein, c'est pas l'enfant qui cache son propre visage, mais il cache le visage de l'adulte qui est à côté, et l'adulte cache le visage de l'enfant. Et c'est ça, hein, si
voilà.
Je ne me trompe pas. Et donc, il y a un jeu de mains comme ça qui est hyper intéressant, où chacun cache le regard de l'autre, et je trouve ça très poétique.
Mais en fait, c'était la seule personne qui. Le seul hébergeur qui avait dit, mais moi, OK pour faire le projet, mais par contre, moi, je veux pas qu'on voit mon visage. Parce que avec Doudou, ils avaient vécu presque un an ensemble. Il avait accueilli Doudou pendant un an et il me dit, mais moi, si on voit pas son visage, je veux pas qu'on voit le mien. Ou si on voit son visage, je veux qu'on voit le mien. Mais je veux pas être différent de lui parce que on a vécu ensemble presque. On a vécu pareil. On a vécu cette aventure ensemble. Donc, pour lui, il ne voulait pas être différent de l'enfant. Donc, au départ, Manuela, elle m'a dit, bon, bah, s'il veut pas montrer son visage, on ne va pas le faire. Et tout. Mmh. Je lui ai dit, moi, j'y vais, on discute, je vais comprendre pourquoi il ne veut pas. Et après, on voit, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai compris vraiment la relation qu'ils avaient entre eux, et du coup, j'ai pu me permettre de demander à ce que l'un mette la main sur le visage de l'autre. Parce que pour beaucoup de personnes, tu peux pas... Enfin, moi, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui touchent l'autre personne. Enfin, tu peux pas... mais ça, quand tu discutes, tu sens qu'il y a des choses qui sont possibles.
En lien avec la maman qui était
oui,
enceinte.
Voilà.
Voilà, où tu avais projeté quelque chose et là, tu t'étais
voilà,
dit, bon,
voilà.
On ne projette rien, on regarde déjà.
Et là, ils avaient... en fait, lui, il prenait tellement soin de cet enfant et cet enfant prenait soin aussi de lui. Parce que quand on accueille, parce que moi, j'ai accueilli aussi chez moi... C'est des rencontres humaines et elles sont à double sens. Donc, il n'y a pas que quelqu'un qui aide quelqu'un à un autre. On s'aide mutuellement, quoi. Donc, du coup, cette photo, elle a beaucoup de sens parce que ça raconte leur propre histoire à eux. Et j'essaie qu'à chaque fois, dans mes photos, on essaye de comprendre aussi... la relation qu'ont les gens entre eux et que...
Et finalement, ce qui est intéressant sur une photo, c'est la capacité d'interprétation de chacun.
Oui.
Et c'est le début d'une conversation finalement aussi. C'est le fait de juste regarder une photo. Puis ça nous inspire des sujets de discussion. Et puis il y a eu plein de fois où effectivement, on a une personne à côté de nous qui a regardé la même photo. Et puis ça déclenche finalement une conversation.
Quoi.
Ouais, ouais. C'est le début d'une conversation. Où est-ce qu'on pourra voir cette exposition du coup?
Cette expo va avoir lieu à Arles pendant la première semaine de juillet et la troisième semaine de juillet. Elle est accueillie dans une vraie maison chez Rémi Saboureau, qui crée aussi l'ambassade de l'État créatif. Et donc pour nous, exposer dans une maison des gens qui ouvrent leur maison, ça avait...
Ça faisait sens.
Plein de sens.
Ouais.
Donc voilà.
Ok. J'ai... déjà, merci pour avoir partagé tout ça.
Bah, merci.
C'est des très beaux projets.
C'est plutôt agréable, en fait.
C'est vrai ? Bon, bah, c'est chouette, alors. J'ai encore deux ou trois questions, mais hyper rapides. Et je crois que c'est des questions de qu'on doit te poser très souvent, en fait. Mais finalement... Enfin, bon, je vais quand même te la poser, puis tu me dis ce que t'en penses. Est-ce qu'il y a une photo que tu rêves de prendre et que tu n'as pas encore prise ?
Il y a des milliers de photos que je rêverais de prendre. Donc, oui. Mais je ne sais pas laquelle. Je ne sais pas quelle sera cette photo. Mais c'est okay. Ça que j'aime.
Ça veut dire que tu projettes plutôt une réalisation finale ou tu projettes plutôt une émotion ou
une émotion ou une okay. rencontre.
Merci Géraldine.
Merci.
Merci à tous d'avoir écouté cette conversation. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à écouter peut-être d'autres conversations. Ça peut vous intéresser. Très bonne journée à vous.